Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Paris Central. Alors là, je suis avec Basto, mais il y a Nyx qui va arriver. Un peu de speed, il a peut-être embouti sa voiture. Attention, attention, attention. Est-ce que c'est la semaine horribiliste du PSG qui a provoqué autant de stress? C'est ce dont on va parler. Et on va commencer avec un petit sujet. Hein. Nyx, vous inquiétez pas, il arrive, il prend le relais tout de suite. Comment est-ce que tu expliques les alternances entre un bon PSG, un PSG enthousiasmant, avec des changements, avec quelque chose de porteur, et un PSG qui vire à l'horribilis avec une semaine en enfer? Comment est-ce que tu expliques ces différences-là, toi?
Il y a plusieurs points. Mon premier point, c'est évidemment une équipe toute nouvelle avec plus de la moitié du 11 qui a changé, un nouveau coach, des systèmes mis en place. Donc, ça ne peut pas, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, on ne peut pas avoir un PSG constant dès le début sur l'ensemble des matchs. On a vu le temps que ça a mis pour Arteta à Arsenal pour construire, Klopp à Liverpool, même Guardiola à City, même si bon, il bat le record de points du club dès la première année. Donc, ce n'était pas non plus catastrophique pour City. Deuxième point, le changement de système de Henrique qui ne met pas forcément les joueurs dans les bonnes conditions, mais ça, on va en revenir en large et en travers dans quelques temps. Et troisième point, est-ce qu'on n'a pas vu ce PSG trop beau? Un effectif qui a quand même des manques criants. Maintenant, on a eu des résultats en trompe-l'œil, j'en parlais dans le dernier live. On avait battu qui depuis le début de saison? On n'avait battu que des équipes qui étaient malades ou en crise, un Lyon qui est dernier de Ligue 1. Un Lens qui à ce moment-là ne faisait que perdre, un Marseille bah, qui venait de son coach venait de partir, c'était en pleine crise de pouvoir là-bas, et un Dortmund qui est très très faible cette année, qui lui aussi est en crise. On parle de changement d'entraîneur, etc. Donc ça, c'est nos quatre victoires. On regarde les autres matchs, tu as un nul contre Lorient, bon, qui était, on va dire, prometteur, même s'il n'y avait pas eu d'occasion, on en avait vu du jeu. Il y a eu ce nul à Toulouse qui n'était pas beau, il y a ce nul à Clermont qui n'est pas beau, il y a cette défaite contre Nice. Mais on avait dit Nice et Clermont, on a tourné, donc c'est peut-être pour ça, tu vois, on n'a pas l'équipe type. Là, t'as Newcastle, t'as l'équipe type, et tu te prends ce match-là. Donc,
Est-ce que c'est l'équipe type? Ça, c'est un débat, mais on va revenir dessus après parce
c'est
que
l'équipe type de Henrique.
voilà, c'est l'équipe type du 4-2-4. Est-ce que le 4-2-4, c'est le compo type? On en reparlera. Mais tu
Bien sûr.
vois, j'ai envie de faire un parallèle avec l'année dernière. Est-ce que du coup, tu comparerais les victoires avec le bon début de saison de l'année dernière? Est-ce que pour toi, les victoires sont en trompe-l'œil ou est-ce que ce sont les défaites qui sont en trompe-l'œil?
Comparé à l'année dernière?
Ben, si tu veux, tu sais, tu te souviens, l'année dernière, on était parti à chapeau de
Non.
roue avec le match contre Lille, avec
Oui.
etc., 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 etc. Et ces victoires, ce début de saison, ça avérait être un trompe-l'œil. Et j'ai envie de te demander, est-ce que pour toi, cette saison, c'est le
Non,
début de
ça.
saison qui est un trompe-l'œil ou c'est les défaites qui sont un trompe-l'œil ou ces victoires sont analogiques à celles de l'année dernière? Enfin, je ne suis pas clair dans ma question, mais je crois que tu as compris l'idée.
Oui, non, je pense que ça n'a rien à voir. L'année dernière, on commence effectivement par 7 matchs, 7 victoires avec Galtier, mais on ne voit rien quoi, tactiquement en place.
Ouais.
Quand tu vois des victoires, mais il n'y a déjà pas grand-chose à analyser. C'est déjà des individualités, c'est déjà Neymar, Messi, Mbappé, et t'as pas, tu vois pas de schéma de jeu, de circuit de jeu préférentiel mis en place. Là, que ce soit dans les victoires ou les défaites, tu vois des choses tactiques à redire à chaque match. Donc c'est très différent. Maintenant, est-ce que les défaites sont en trompe-l'œil? Non, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas tactiquement. Est-ce que les victoires sont en trompe-l'œil? Non, non plus, parce qu'il y a eu des bonnes choses tactiquement. Mais voilà, le seul truc que je disais qui était en trompe-l'œil, c'est que c'est vrai, nos victoires ont été contre des équipes, même si c'était des noms, Lyon, Marseille, Dortmund, Lens, c'était des équipes malades. Donc on s'est peut-être un peu vu trop beau par rapport au pedigree de ces équipes qui en fait étaient en crise.
On reconnaît bien là Vincent qui va chercher l'optimisme jusqu'au bout, à le squeezer au maximum. Vincent, lâche rien, t'es le plus optimiste de tous. Moi, à titre perso, enfin moi je me suis violemment emballé. Hein, limite, je me prends un immense fail là, sur le dernier live. J'annonce un 2-0 parce qu'on a un Ougarté qui va littéralement éteindre Guimarães. Et voilà, je me suis violemment emballé. Après, je pouvais pas anticiper, comme le disait Eve tout à l'heure, je pouvais pas anticiper qu'on allait jouer avec un milieu de moins, surtout après la défaillance à Clermont. On va pas parler tout de suite du 4-2-4 via, parce que ça, ce sujet, on va attendre. Vas-y, 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 vas-y.
Je rajoute juste que j'ai été traité d'aigri et de pessimiste pour avoir pronostiqué un partout à Newcastle. Remettons
Alors
les
ça,
choses en place.
mais quand même, mais en même temps, si tu veux, tu sais, c'est l'effet début de saison, on a envie de s'enflammer, on a envie de s'enthousiasmer, surtout que, comme tu l'as rappelé, hein, dans le jeu, on voit des trucs. on voit des cohérences, on voit des intentions. Pour moi, il y avait vraiment une difficulté à ressortir le ballon par la possession, autrement que par un milieu qui se projette, etc. Mais tu voyais quand même des choses se mettre en place. Mais là, on se retrouve avec un 4-2-4, machin. Alors, le 4-2-4, on en parlera après. On va garder le sujet au chaud parce que Nyx, lui, il est fan et que tous les deux, on n'est pas tellement fan. Et c'est sympa d'avoir un petit peu de contradiction. Mais on va tout de suite passer au dernier sujet. Est-ce que pour toi, Enrique, c'est un dogmatique ou c'est un pragmatique?
Je crois qu'on a... on connaît tous le personnage Enrique. On sait que c'est quelqu'un, même quand il était joueur, d'extrêmement têtu, qui se remet peu en cause, qui a l'impression d'avoir toujours raison sur le reste du monde. Que ce soit dans ses choix dans lequel il persiste. Hein. C'est un coach qui s'entête. On l'a vu avec l'Espagne, il s'est entêté dans le même schéma. Même si c'était un peu stérile en poule, bah ça donne quoi? Ça donne une défaite contre la Russie en 8e d'Euro et une défaite contre le Maroc en 8e de Coupe du Monde avec un Enrique qui n'a jamais changé de système ni de style de jeu alors que contre les blocs bas, il était en difficulté. À Paris, on va voir s'il insiste dans ce 4-2-4 avec ces joueurs-là. Mais pour le moment, il n'a pas l'air vraiment de s'en remettre en cause parce que ce qui a circulé dans la presse, ce qu'il a dit en off, c'est que s'il devait rejouer 12 fois ce match, il remettrait 12 fois ce schéma parce qu'il estime que c'était bon. Et où il est aussi dogmatique, c'est que tu peux faire une erreur et partir sur un schéma qui n'est pas bon, mais tu changes à la mi-temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des changements poste pour poste pour continuer dans ce schéma qui prenait l'eau. Donc oui, il voit peut-être des choses que nous, on ne voit pas. Enfin, c'est ce qu'il pense. Il nous dit aussi... Enfin, c'est pas lui qui nous le dit, mais c'est un entourage, son entourage qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi d'un coup on dit oh le 4-2-4, alors que quand il y avait Vitinha, pour lui c'était aussi un 4-2-4. Ouais, enfin, je sais pas s'il se fout un peu de nous ou s'il aime juste pas les médias, mais je pense que tout est un peu lié. Je pense qu'Enrique est sûr de lui, peut-être trop sûr, et qu'il ne se met pas assez rarement en question. Mais ça, on le savait, c'était des doutes avant son arrivée. C'est un dogmatique, oui, c'est un dogmatique.
Bah, c'est un mix pour moi, c'est un mix. Mais je trouve que là, point virgule, la manière avec laquelle il pose la question, c'est une bonne manière de poser la question. C'est-à-dire que pour l'instant, même s'il y a justement l'historique de l'Espagne, et puis tu pourrais rajouter l'historique du Barça, où ça a chauffé, notamment quand il a voulu replacer Iniesta plus bas, et t'as Messi qui limite est rentré en grève de la faim. Enfin, tu vois, je veux dire, ça a failli très très mal finir tout ça, tout ce bordel-là. C'est un coach qui, pour moi, en fait, il a ce pragmatisme jusqu'au moment où il rentre dans un tunnel. Et quand il rentre dans un tunnel, il est dans son tunnel et t'as l'impression qu'il ne peut plus en bouger. Maintenant, il a aussi le droit d'apprendre. Il a aussi le droit de se remettre en cause, etc. Et on ne sait pas où est-ce qu'il en est. Et comme le dit très bien point virgule, c'est peut-être un peu tôt pour vraiment s'arrêter à se fixer en fait à une idée. Moi, je continue malgré tout d'avoir un espoir parce que dans le jeu, dans les intentions, pour moi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. Il faut remonter à Emery, même s'il y a des trucs qui me tiltent et qui, comme toi, me rappellent un peu Tourelle. Mais pour moi, il faut vraiment remonter à Emery. Et donc, j'ai encore envie d'un petit peu attendre. Mais jusqu'où toi, tu vas avoir la patience s'il reste vraiment enfermé dans ce schéma-là.
Est-ce qu'il y a un traitement disponible en pharmacie contre la tourellite aiguë, effectivement? Parce que si tu commences à être atteint de cette maladie incurable.
Mais pour toi, justement, est-ce que tu as encore. Jusqu'où tu vas pouvoir attendre, à ton avis?
Je ne sais pas. Si demain, il nous remet un 4-2-4 avec cette attaque-là. C'est-à-dire que Loïc Dembélé sur des ailes, ça va déjà entamer une bonne partie de ma patience. Maintenant, c'est que le début de saison, j'ai tendance à dire que généralement, j'attends jusqu'à décembre pour faire un premier bilan pour un coach. Donc, on attendra au moins ça, surtout qu'il y a des joueurs qui vont revenir. On verra ce qu'il fait quand Asensio et Lee seront disponibles. Ce qui est deux nouvelles solutions offensives, mais qui ne sont pas tout à fait le même style que des joueurs de transition qu'on peut avoir. Donc voilà, il faut attendre de voir avec l'effectif complet aussi ce qu'il va nous faire, de voir ce qu'il déjà il va faire demain contre Rennes. Est-ce qu'il se remet en question ou est-ce qu'il persiste?
On parlera tout à l'heure de Rennes, mais vas-y. Ouais.
Donc voilà, on va pas le lâcher tout de suite, mais on va dire que la lune de miel est clairement terminée et qu'on rentre dans le... Bah, on va le juger maintenant... On va juger sans essayer de... On a peut-être... Enfin, comment dire? On a essayé de le défendre parce qu'on a vu des choses bien, oui, mais c'est aussi parce que c'est un nouveau coach, mettre en place, c'est du temps, mais je pense qu'on a quand même maintenant joué une dizaine de matchs, donc tu as une première idée de ce que tu peux avoir d'un coach. Le deuxième bilan, ce sera après les 10 prochains matchs, mais on va le juger. On va le juger normalement, correctement, sans être dans le hater ou dans l'amour. Donc, on va le juger de manière neutre et objective.
Puis de toute façon, c'est une chose. Hein, c'est, tu sais, tu parlais tout à l'heure d'Arteta Arsenal. Ça a mis un an et ça a vraiment mis un an. Et il y a des fois où les mayonnaises prennent et c'est possible. Au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui apparaît, notamment chez les supporters s'ils continuent avec son 4-2-4. Hein, on va encore attendre Nyx pour en parler. Mais passer cette lassitude, on pourra de toute façon être surpris. Il ne faudra pas enfermer complètement le truc. Mais c'est vrai que là, il commence à être un petit peu tiltant. Il y a cette remarque d'Owen que je n'avais pas vue, l'année dernière, en fait, j'imagine, il y avait des joueurs qui peuvent faire la différence. Cette année, il n'en voit aucun. Est-ce que tu valides ça?
Des joueurs qui peuvent faire la saison, j'en vois aucun.
Ouais, en gros, l'année dernière,
si
Neymar sont partis, tu n'as plus de joueurs pour faire la diff. Est-ce que pour toi, tu le vois de la même manière?
C'est un joueur qui peut faire la diff, mais qui rate tout le dernier geste qui s'appelle Dembélé. Donc, il fait une diff, mais pour rien. C'est un joueur, on le sait, hein, il met en moyenne 5 buts par an depuis 5 ans. Donc, il ne faut pas attendre à ce qu'il change et qu'il arrive d'un coup à mettre ses occasions. J'ai l'impression que s'il met un but, c'est limite un miracle. Quoi. Maintenant, tu le vois aller en face à face sans goal, tu as l'impression qu'il va la rater. Quoi. On va même plus se lever de notre banc quand on voit Dembélé partir seul. T'as un autre joueur qui peut faire la différence, évidemment, qui est Mbappé, hein, qui peut obtenir des pénaux, qui peut marquer des buts seul, mais pas si seul que ça, comme on peut le voir. C'est aussi un sujet dont on abordera tout à l'heure. C'est Mbappé, c'est pas Neymar ou Messi qui peut vraiment faire la diff seul, c'est qu'il a aussi besoin quand même d'un quadrillage et d'un contexte avec des soutiens derrière lui.
Ouais, mais puis même au-delà de ça, il faut rappeler que le sens du projet, là, c'était justement de remplacer les individualités par le collectif. Et tout le narratif du club a été dans ce sens-là. Le recrutement du club a été dans ce sens-là, sauf cette espèce de virage à la fin de Kolo Muani. Bien sûr, Nyx n'a pas mis un point sur Kolo Muani, mais peut-être qu'on pourra justement aborder le sujet. Mais sinon, le narratif, ça a été on va se priver des individualités, on va remplacer justement ce qu'apportaient les individualités par le jeu collectif. Ouais, mais... Est-ce que pour toi, c'est une faillite déjà, ça?
En fait, c'est souvent le cas avec Paris, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Donc, on nous dit, moi, je suis d'accord, hein, j'étais d'accord pour nous séparer de Messi, Neymar et Verratti et créer une équipe qui dépend moins de ses joueurs clés et qui est plus collective. Maintenant, tu regardes un City, ils ont quand même des joueurs comme Bernardo Silva, comme De Bruyne, qui sont des joueurs qui sont capables de faire la différence seuls, mais qui s'inscrivent dans un cadre collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas des superstars, mais c'est des joueurs qui font la différence. Et nous, on est passé de des joueurs qui empêchent un cadre collectif de s'exprimer parce qu'ils sont tellement au-dessus individuellement et ils ne rentrent pas dans ce cadre collectif, à seulement un cadre collectif, mais avec... c'est vrai que tu ne vois pas le crush player, ce qu'on appelle le crush player, comme Bellingham peut l'être au Real, par exemple.
Ou typiquement un joueur dont on a beaucoup entendu parler cet été, qui est Bernardo Silva.
Ah oui, bah ça, oui.
Est-ce que ça aurait pas... Est-ce que c'est justement... Est-ce que... Oui, au-delà d'avoir un joueur qui fait la différence, est-ce qu'il ne nous manque pas ce joueur qui fait le lien, en fait? C'est, on en revient. Est-ce que notre milieu n'est pas dépeuplé? Et est-ce que fondamentalement, Enrique a des meilleures solutions? Le 4-2-4, Nyx, on est obligé d'en parler, de ce sacré 4-2-4. Donc, on va lancer le sujet. Est-ce que pour toi, le 4-2-4, déjà, comment est-ce que toi, t'expliques pourquoi est-ce que Enrique se dit on va mettre un 4-2-4? Alors attends, juste avant de ça, il y a pas mal de remarques sur Marquis, notamment Eve, qui ne peut plus le sentir, Prince Vega qui nous dit Marquis, c'est fini. On était jusqu'à deux matchs, Marquis, meilleur début de saison depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, il y a un énorme retournement. Est-ce que tu as envie de défendre le joueur ou pas particulièrement? Sinon, moi, je vais m'y coller.
Vas-y, je te laisse.
Le truc, c'est ça va être difficile, en fait, de juger les joueurs, que ce soit milieu. On va venir sur le 4-2-4 particulièrement. Mais quand tu es tout le temps face à un surnombre au milieu et que tu as une équipe qui est joueuse, qui arrive à mettre le pied sur le ballon au milieu, même si on a une possession 60% du temps ou 70% du temps et qu'ils sont là que 30%, mais que les 30%, ils ont en permanence le surnombre, tu vas te retrouver avec et ton milieu et tes centraux qui seront beaucoup plus en difficulté. Et à partir de là, fin, tu vois, on a eu la faillite au niveau des passes contre Newcastle. Bah, c'était pas, il y a eu Marquis, hein, mais il y a eu Marquis, il y a eu Ugarte, il y a eu Skriniar, il y a eu à peu près tout le monde. Donc à un moment, c'est soit tu te dis qu'on a que des chèvres en fait derrière qui sont plus capables de faire des passes, soit que les circuits de passes n'étaient pas assez clairement identifiés et pas assez facilement trouvables pour les joueurs et qui se retrouvaient dans des situations où inévitablement tu allais faire de la merde. Donc moi, je trouve ça un peu dur, après un match comme ça, d'en revenir sur la prestation presque défensive, ou en tout cas la prestation défensive avec ballon, parce que c'est peut-être celle qui pose le plus de questions après le match contre Newcastle, au regard de l'organisation qu'on avait. Et je ne tomberai pas sur Marquis, comme moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon début de saison, qui promettait beaucoup, qui l'apportait beaucoup. Dans le 4-2-4, il a été formidable contre Marseille, contre Clermont, il a beaucoup moins été formidable, et il n'a pas du tout été bon. Et ça y est, Yannick, ce qui arrive, on a réussi à tenir avant de parler du 4-2-4. Voilà.
Et on n'a pas parlé de Colo encore.
Non, mais on a remarqué que Nick, bien sûr, hein, dans son plan, il n'est pas un point spécial Colo ou Colo Ramos pour qu'on puisse en discuter. Mais voilà. Comment ça va, Nick?
Oh, les gars, là. Franchement, là, si vous ne likez pas aujourd'hui, je vais me fâcher parce que je me suis dépêché de venir. Dites-vous que j'ai tapé la voiture sur un trottoir. Là, je vois, il y a une fuite en dessous de la voiture. Ça va me coûter un billet. Donc, vous avez intérêt à liker, les gars. Parce que je me suis dépêché pour vous et j'ai niqué ma voiture. Vous en étiez où, les gars? Un 4-4 de viable, c'est ça?
On a fait comment expliquer les alternances. On a fait le dogmatisme d'Enrique et on attendait pour le 4-2-4 parce qu'on avait besoin d'un contradicteur. Parce que ce soit basé au moins, on va le défoncer, le 4-2-4.
Après, comme j'ai dit. Le 4-2-4, à proprement parler, je ne suis pas forcément fan, mais moi, ça m'intéresserait de voir ce que ça donne en 4-2-3. Hein. Parce que comme j'ai dit à Basto toute la semaine, le 4-3-3, c'est probablement la meilleure solution. Mais sauf que tu n'as pas de solution de remplacement. Là, on a bien vu contre Newcastle, du coup, quand on a voulu sortir Ugarte, il y avait Vitinha. Tu as trois bons joueurs pour deux postes, alors que le 4-3-3, tu as trois bons joueurs pour trois postes. Donc en fait, dès qu'il y en a un qui n'est pas là, on l'a vu quand Ugarte n'était pas là, du coup, tu as tout qui saute, tout ce que tu as travaillé, ça saute parce que les joueurs derrière que tu as, ils n'ont déjà même pas le même profil. Et en plus, il y a un gap de niveau qui est tellement énorme que si tu veux partir sur un 4-3-3, soit tu recrutes cet hiver, soit tu espères qu'il n'y a aucun des trois qui se pète et tu continues à les faire jouer tous les matchs. Et si tu arrives à prendre des victoires assez tôt dans le match, tu peux faire sortir et faire rentrer des Fabian Ruiz, ou etc., etc. Donc moi, j'aimerais bien voir le 4-2-3-1. Après, j'ai vu c'est ce qui a été travaillé depuis le match à Newcastle. Donc j'espère voir ça ce week-end et voir ce que ça donne. Après, avoir un avis sur est-ce qu'il faut jouer rester en 4-2-3-1 ou est-ce qu'il faut aller en 4-3-3. Moi, je veux le voir avant parce qu'en tant que 10, tu as quand même trois alternatives, même si je sais que vous n'êtes pas fan de Dembélé. Pour moi, c'est la troisième. Mais tu as quand même Asensio, tu as peut-être Kanginli qui peut jouer au poste de 10. Et après, derrière, tu as Dembélé. Donc ce poste-là, il est sécurisé. Après, sur les ailes, tu as du Barcola, du Colomwani, du Mbappé. Tu as Kanginli qui peut jouer sur un côté aussi. Et après, tu as Ramos devant. Donc, c'est la meilleure solution. En fait, moi, ce que je dis, c'est que quand tu as une faiblesse quelque part, tu dois maximiser tes forces. Tu as plein d'attaquants, tu as plein de défenseurs, mais tu n'as pas de milieu. Donc, c'est compliqué de blinder le milieu.
Alors, j'ai envie de te poser une question. Toi, tout à l'heure, tu disais que tu as trois joueurs pour deux postes. Mais est-ce que ces trois joueurs, ça fonctionnait sur deux postes, justement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en fait, si tu veux, tu n'as pas juste le milieu qui est fait pour jouer à trois au milieu, ou est-ce que tu dis trois joueurs pour deux postes, mais si tu pars sur, Warren, Warren Vitti, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que tu maximises le truc? Ou est-ce qu'au fond, fondamentalement, tu vois, enfin, moi, quand je regarde...
Il y a sur un présentateur.
Je ne sais pas, justement, il y a un flou. Mais la question que j'ai envie de poser à Nick, c'est vraiment, est-ce qu'on a les profils pour jouer dans un milieu à deux?
Pas pour l'instant. Après, moi, je me dis que si Enrique, il reste là-dessus, borné, c'est qu'il a un plan et que ça ne va pas forcément être très, très bien tout de suite, mais il va développer les joueurs à ce poste. Parce qu'on connaît Enrique, c'est l'école Barça. En fait, quand il a une idée, il va aller jusqu'au bout. Donc... peut-être qu'il se dit c'est pas bon pour l'instant, mais je vais travailler certains côtés d'Ugarte, parce que Ugarte, d'accord, c'est un très bon joueur. On va pas dire que le mec il peut jouer qu'en 4-3-3. Tu peux le faire travailler pour qu'il ait d'autres automatismes, pour qu'il soit bon à un autre poste. Si tu es vraiment un grand, grand joueur, tu peux essayer de t'adapter à pas mal de systèmes. Certes, ce n'est pas ses qualités de base, mais tu peux travailler ou garder. Il est encore jeune. Déjà, à la base, on avait dit qu'il n'avait pas le profil pour être le 6 ou Luis Enrique. Enfin, il y a plein de gens qui ont dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Parce qu'il n'avait pas la capacité technique. On a vu qu'au final, ça se passe très bien. Donc là, pour l'instant, on dit à deux, il ne peut pas, mais il peut très bien, forcément. Vitinha, il a joué à Porto pendant je ne sais pas combien de temps dans un milieu à deux. Voilà, après Zaire Emery, c'est un joueur jeune, tu peux le développer aussi. Moi, je pense pas que c'est arrêté. Je pense que tu peux essayer. Là, il est encore en train d'essayer des choses. Il faut le laisser essayer. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai vu dans le chat, vous parliez d'Asensio Kanginli au milieu de terrain pour le 4-3-3. Ouais, je suis d'accord. Par contre, si tu perds Ugarte, derrière, tu as Zaire Emery qui est en 6. Et puis, du coup, on a vu ce que ça a donné.
Mais que ce soit à 2 ou à 3, ça change. En fait, le milieu à 2, c'est pareil. Tu as Ugarte et Emery, mais c'est les deux seuls. Et encore, pour moi, je ne les préfère pas dans ce 4-2-4 parce qu'Emery, ce n'est pas un joueur qui sait vraiment jouer de haut but et Ugarte a besoin d'avoir des relais de solutions simples à la relance. Si en plus, s'il sort, tu te retrouves avec Vitinha et Ruiz qui ne sont clairement pas pour moi des milieux de double pivot, qui sont des milieux qui sont plus des joueurs à 3. Lee, c'est la même chose. Il y a plus de solutions à l'arrivée pour moi en milieu à 3 quand Lee reviendra et quand Asensio, pourquoi pas, reviendra. Que à deux. À deux, tu en as un qui se pète et pour moi, c'est déjà fini. Tu n'as que Ugarte et Emery que tu peux mettre en milieu à deux.
Ça, et puis même par exemple, si on prend Vitinha, il a joué en milieu à deux, mais il avait Viega à côté. C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est à la fois. Viera, oui, pardon. Et c'est complètement différent. On n'a pas ce genre de profil. On n'a pas cet équilibre-là pour pouvoir avoir deux joueurs. Maintenant, moi, le truc qui me perturbe, en fait, dans ce milieu à deux, c'est qu'en face, il y a tout le temps un surnombre au milieu adverse, et dès qu'on a une équipe qui sait tenir le ballon, eh ben, ce surnombre nous amène à complètement déjouer. Et pour moi, que tu sois en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, ça ne va pas changer, parce que ton 10, il ne va pas avoir un impact défensif qui sera plus important, tu auras du mal à écarter, tu auras surtout du mal à écarter ton milieu pour essayer de couvrir, en fait, sur la largeur du terrain, et pour moi, tu ne peux pas t'en sortir. Je ne vois pas comment est-ce que défensivement, alors à moins que tu prennes des bêtes qui viennent en mode punitif comme ça avait été le cas à Marseille, je vois pas comment défensivement tu peux t'en sortir avec un milieu à deux, l'Anix.
La différence déjà, c'est qu'avec ce qu'on a vu mercredi, sur les côtés, tu avais deux mecs qui foutaient rien. Donc déjà, quand tu as un milieu à deux, ça aide pas. Donc si tu as des profils de joueurs travailleurs, moi je suis désolé, tu fais un triangle au milieu avec Zaire Emery ou Ugarte par exemple. Et en 10, tu peux même peut-être tester Vitinha aussi. T'as un triangle qui couvre quasiment tout le milieu de terrain. Après, à gauche, à droite, t'auras tes ailiers qui, si ils travaillent, normalement, ça t'apporte un certain équilibre. Parce que je suis désolé, les gars, ça fait je sais pas combien de temps je vous connais, ça fait plein de temps que je suis sur la commu PSG. J'ai l'impression que le seul système qui existe dans ce PSG, c'est faut que ça soit 4-3-3, sinon c'est pas bon. Alors que toutes les autres équipes trouvent le moyen de jouer dans d'autres systèmes. Ça fait des années, j'entends 4-3-3, ça y est, il n'y a pas que ce jeu à ce système dans le football. Arteta, il a galéré pendant des années avec son 4-2-3-1. Maintenant, on voit bien que son 4-2-3-1, il fait mal à tout le monde. Et c'est hyper... Mais si, c'est un 4-2-3-1. Tu as Odegaard qui est en 10, et tu as Saka et Martinelli sur les ailes, et tu as Gabriel Jesus ou Nketiah devant. Après, derrière, tu as Rice en double pivot avec...
Zinchenko qui joue quatrième milieu, tu as...
Oui, bah c'est ce que là on parle de l'animation, Basto. Mais moi je te parle de la compo de départ. De la compo de départ, un 4-2-3 avec tes latéraux qui rentrent à l'intérieur, comme on a pu voir sur Guardiola ou sur Arteta. En fait, il y a des animations possibles en 4-2-3. Hein. La compo de départ ne dicte pas ce que tu vas faire dans le jeu. Moi, tu vois, il y a des moments, il teste, il m'a mis à l'intérieur. Tu vois qu'il est en train de tester pour essayer de trouver un équilibre. Donc peu importe la compo, moi je pense qu'on peut trouver un équilibre. Le 4-3-3 n'est pas obligatoire dans le football moderne. Et c'est pas parce que le Real arrive à gagner, je sais pas combien de Ligue des Champions avec son historique 4-3-3 que forcément tout le monde doit faire un 4-3-3.
Tu vas y aller, Baston. Très rapidement, je voulais dire, ouais, si on marque, on crée au génie pour le 4-2-4. Ouais, mais déjà, si on a des occasions à proprement parler, ouais, je crierais déjà que je commencerai à crier au presque génie. Je te laisse réagir, Baston.
Le 4-2-4. Le 4-2-4. Je peux le comprendre dans l'idée où tu mets quatre attaquants presque en individuel très haut sur les quatre décès adverses et tu peux, si tu arrives à les provoquer en un contre un, tu les obliges à reculer, donc tu contrôles le ballon et le rythme. Je pense que c'est l'idée maintenant. Il faut quand même trouver du lien au milieu. Alors un 4-2-4, si tu as des joueurs comme Lee ou Asensio qui sont dans cette ligne de 4, je veux bien, Mais une ligne de 4, comme on a eu à Newcastle, avec trois purs joueurs de transition, qui c'est Dembélé, Kolo et Mbappé, je ne veux plus jamais voir ça. Ça n'a aucun sens. On a des joueurs de transition et qu'ils ne sont même pas capables. Enfin, Dembélé le fait, mais Kolo n'est pas assez fort pour gagner des 1 contre 1. Si tu veux vraiment mettre un 4-2-4 comme ça, il te faut des mecs comme sous Guardiola qui sont des masters en 1 contre 1, tu vois, sur l'aile. On n'a pas ça forcément ce profil. Et ce qu'imaginer contre Newcastle, c'est qu'on parle de 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-4, c'est qu'on avait bien aimé ces systèmes hybrides qu'avait Enrique, tu vois, en ce début de saison. Contre Newcastle, Hakimi, il ne monte plus, il n'y a plus d'espacement de fonction, tu as clairement un 4-2-4. Il n'y a plus de déséquilibre, d'asymétrie, de machin. Tu as un vrai 4-2-4 et ça n'a aucun sens.
Je ne sais plus ce que je voulais dire du tout. Par contre, il y a une réaction de Mister T que je vais encore mettre en avant, mais cette fois, je vous laisserai répondre. Il n'y a pas que le 4-3-3. Basto, tu réponds quoi à cet argumentaire, justement, que le 4-3-3, il y a cette espèce d'apologie du 4-3-3 et qu'on ne peut pas s'en sortir sans le 4-3-3 et que, justement, il faudrait peut-être autre chose.
Je sais pas, l'effectif qu'on a de toute façon ne permet pas non plus de trouver de solution idoine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, avec le milieu Ugarte-Emery, avoir des joueurs qui savent jouer de haut but et qui savent faire le lien avec un milieu. Donc appelez-le comme vous voulez, 4-2, 4-4-4-2, 4-3-3, 3-4-3. Pour moi, sur le terrain avec Ugarte-Emery, tu dois avoir au moins deux joueurs parmi, voire trois joueurs parmi les suivants, entre Vitinha, Lee, Asensio, tu dois en avoir au moins deux sur les trois pour apporter un équilibre. Parce que devant, on a trop de joueurs qui sont dépendants aussi de liens créatifs derrière, que ce soit Ramos, que ce soit Colomboigny, que ce soit Mbappé. Donc, peu importe le système après, du moment que sur le terrain, on a au moins, avec Ugarte et Emery, deux à trois joueurs de ballon pour faire ce lien.
Et du coup, Nix, moi j'ai envie de te demander, est-ce que toi tu faisais la comparaison avec Arsenal, mais avec City, etc. Mais on parle de joueurs de latéraux qui sont capables de se recentrer, mais en même temps de couvrir leurs ailes. On parle d'ailiers qui sont capables de se recentrer. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, dans l'effectif, par rapport à un 4-2-3-1, tu vois assez de souplesse intellectuelle chez les joueurs? Si on reprend Hakimi était. On avait laissé, puis dès qu'on l'essaye en latéral, il ne sait plus jouer parce qu'il n'a plus l'habitude. Est-ce que les joueurs ont assez de souplesse pour pouvoir animer justement ton 4-2-3-1?
Écoute, tout dépend du coach que tu as. Parce que j'ai vu, je ne sais pas, par exemple, jouer à Jérémy Doku arriver à City, comment Guardiola l'a cadré direct, ce n'est pas le même que jouer à Rennes. Donc ça dépend de l'impact de Luis Enrique sur les joueurs. Là, on a quand même vu un Hakimi qui est bien différent des deux années précédentes qu'il y a eu au Paris Saint-Germain. Donc, en fait, si tu le mets en confiance comme il a réussi à le faire, tu peux réussir à obtenir le meilleur du joueur. Parce que là, pour l'instant, il y a qui à City sur... Il y a Kyle Walker. Je suis désolé, Kyle Walker, c'est un très bon joueur. Ce n'est pas le mec le plus intelligent au niveau QI football. C'est Guardiola qui l'a rendu comme ça. C'est le coach qui a cadré, qui a créé un contexte. Et ça a pris des années. Kyle Walker, moi, j'ai vu une progression comme ça au niveau du système de Guardiola, parce que ça a toujours été un mec très rapide et très bon en contre 1. Mais je trouve que dans le jeu, il est un peu meilleur depuis qu'il est sur Guardiola. Il y a plein de cas comme ça. Tu prends le défenseur Nathan Ake qui sort de Bundesliga.
Akanji,
tout ça, c'est des mecs... Non, Nathan Ake sort de Southampton, je dis d'ailleurs. C'est Akanji qui sort de Bundesliga. Tu prends ces mecs-là, avant qu'ils arrivent à City, ils n'ont pas le même QI football. Là, on a la chance d'avoir un coach qui, normalement, a un QI football assez élevé, qui, normalement, peut mettre tous les joueurs dans les meilleures conditions pour les éduquer. Tu vois, il y a plein de joueurs qui te disent, moi, sur tel coach, j'ai tellement appris, je suis devenu tellement fort. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur Rodri récemment, qui disait que je ne suis pas le même depuis que je suis sur Guardiola. Le Rodri qui sort de l'Atlético, là, je vois tout le monde nous dire Rodri, il est exceptionnel. Guardiola a un gros rôle à jouer là-dedans. Et Luis Enrique a un gros rôle à jouer dans l'animation qu'il va avoir avec ses latéraux pour que Hakimi, notamment Nuno Mendes, quand il reviendra, pour qu'il, je sais pas, soit il rentre tous les deux à l'intérieur pour permettre au numéro 10 qu'on a de faire le lien avec l'attaque. Ou peut-être qu'il y en a un qui reste derrière pour faire l'équilibre et l'autre qui monte, comme on voit avec Lucas Hernandez. Mais ça passera par Luis Enrique.
Mais Guardiola a toujours eu soit Iniesta Xavi, soit De Bruyne, Bernardo Silva. Il y a toujours sur le terrain, c'est comme je disais, c'est deux, trois liens qu'il faut. Tu vois, quels que soient les systèmes ou les machins qu'il a fait, il a toujours eu ces deux, trois créateurs. Ce qu'on n'a pas, nous.
Et au-delà de ça, Basto, que par exemple, quand tu avais comment il s'appelle notre coach? J'allais l'appeler Pep Genesio, mais non, c'est pas Pep Genesio, c'est Luis Enrique. Donc quand tu as Luis Enrique, qui est au Barça, qui a les pas tout à fait les mêmes joueurs, mais qui a en tout cas de ces joueurs-là, ça finit en cacophonie avec le vestiaire. Et si tu veux, des joueurs qui ont dit ce coach a changé mon jeu, on n'en a pas entendu une tonne. Avec Luis Enrique, il y a un débat là qui est ouvert. C'est effectivement le débat. Est-ce que c'est le système qui a causé le problème ou est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas su interpréter? Est-ce qu'on peut même se poser la question de est-ce que c'était un manque d'envie qui explique le match ou est-ce que c'est le système qui explique le match? Je te pose la question à toi, Nix, pour commencer.
Ah, c'est là, je me suis un peu pris la tête avec Basto toute la semaine. C'est que je conçois son argument comme quoi, vu qu'ils étaient en infériorité numérique, ils n'avaient pas beaucoup de solutions. Mais moi, je pense qu'avec l'attitude qu'ils avaient dans ce match, même en 4-3-3, ils auraient perdu tous les ballons. Je ne pense pas qu'il y aurait eu plus de solutions. Il y aurait eu leur fameuse passe latérale qu'ils font sans créer de danger. Et peut-être, à la limite, on aurait pris une plus petite défaite au niveau de l'écart, parce qu'on aurait peut-être tenu plus le ballon. Et encore, j'ai vu, on a 70% de possession. Donc, c'est un peu... Même en 4-3-3, tu serais peut-être monté à 80, mais... Là, quand tu vois les expected goals, en fait, Newcastle, ils sont arrivés 4 fois dans ta surface, ils ont mis 4 buts. En fait, c'est aussi simple que ça. Et tu peux le prendre comme tu veux, 4-3-3, 4-2-3-1, quand les joueurs iront tout. Normalement, tu perds le match, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu des joueurs niveau technique, même si Basto, il me dit que normalement, tu devrais offrir plus de solutions avec le système. Comme j'ai dit lors du débrief, il n'y a aucun joueur qui a réussi son match techniquement. Donc, quand on a un, par exemple, Randall, il n'était pas bon. C'est pas grave quand on a un qui est comme ça qui est pas bon. Mais là, t'as Randa qui est pas bon. T'as Kylian, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Moi, j'ai l'impression que ce mec-là, après, on verra peut-être le reste de la saison, ça va changer. J'ai l'impression que ça fait 2 ans, Florentino Pérez lui a dit pour revenir au Real, il y a qu'une seule façon, c'est libre. Donc, depuis 2 ans, il se dit bon, je fais mes 2 dernières PGC tranquille, je sors, etc. Je fais ma vie et je reprendrai le football l'année prochaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Mais quand t'as autant de joueurs comme ça, qui sont pas dans le match, peu importe le système, tu te foires. Tu penses vraiment qu'avec le 4-3-3, le match il aurait changé? Moi, la seule chose que je vois, c'est que même quand on est en 4-3-3 les années d'avant et on a pris des fessées, la seule chose que je vois dans ce match, c'est qu'au lieu d'imposer son style et mettre la pression, le Paris Saint-Germain a subi la pression. Et peu importe le système, le Paris Saint-Germain ne sait pas subir la pression. Tu peux prendre n'importe quelle vieille équipe de Ligue 1, tu peux prendre n'importe même une équipe de Ligue 2. Tu vois, tu leur mets un pressing de fou malade. Cette équipe ne sait pas réagir quand elle est mise sous pression. Et ça fait des années que ça dure. C'est avant Luis Enrique. Tous les matchs, même le match qu'on perd contre le Bayern où Verratti il perd le ballon, regarde le pressing que Verratti il est en train de se manger. Dès que ça arrive comme ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y avait peut-être Neymar qui arrivait à sortir du pressing en faisant un truc de fou, solution individuelle. Mais collectivement parlant, ce n'est pas sortir du pressing et ça fait des années que ça dure.
Ah, tu viens de rajouter une donnée à la problématique, hein, joueur ou système. Tu viens de rajouter adversaire dans l'équation. Basto, on va pouvoir recadrer ou pas d'ailleurs, hein, mais quel est ton avis toi sur le débat joueur ou système?
Pour moi, on a trop de joueurs limités à la relance, que ce soit au milieu ou en défense centrale. Ça, on ne peut rien y faire, c'est notre effectif, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où tu sais ça, tu essayes quoi? Tu essayes de maximiser ce déficit en relance et tu essayes de jouer sur tes meilleurs joueurs. Pour moi, le 4-2-4, c'est un système qui était défaillant pour Ugarte, qui a besoin de relais simples autour de lui. Donc, je parle des meilleurs joueurs du début de saison. Hein. Pour Mbappé, parce qu'il n'a plus de relais derrière comme un Vitinha, et que là, on l'a vu, il était Takolo qui mange sa zone. Mbappé, quand il n'a aucun relais, parce que Lucas est obligé de rester derrière, donc il n'a pas de relais d'un latéral et il n'a pas de relais d'un relayeur. C'est pas un créateur, Mbappé. Il ne fera pas Messi, il ne fera pas Neymar. Il ne sait pas faire. Donc, il devient frustrant, il se frustre lui-même et son attitude le montre. Troisième point, ce système pour Hakimi, qui était bien fait, qui nous permettait de monter, là, il a été obligé de rester derrière tout le match. Donc, c'est un système qui a bridé tes 3 meilleurs joueurs. Plus le fait que, donc, j'ai dit ce déficit structurel à la relance, et on sait que le point fort Newcastle, c'est un pressing fort, et tu joues dans un système qui je sais pas, moi, dès que j'ai vu cette compo, pour moi, c'était fini. Alors, je dis pas qu'en 4-3-3, on aurait gagné. J'avais parié un partout la veille. Et vu le niveau des joueurs, sûrement qu'on aurait perdu, j'en sais rien. Mais ce déficit technique. Comme toi, tu l'as dit, toi, je prends l'inverse que tu dis, Nick. C'est, tu dis, c'est pas un joueur, c'est tout ce qui était nul techniquement. Mais si c'est tout ce qui apparaît nul techniquement, c'est que c'est peut-être le système. Parce que déjà, clairement, en 4-2-4, on a un déchet technique qui est monstrueux des deux tiers des joueurs. Donc, ça fait deux matchs de suite que tu mets un 4-2-4 et deux matchs de suite où tu vois un déchet que tu n'avais pas vu depuis le début de saison. Donc, pour moi, on a un problème individuel de niveau de joueur sur la fiabilité en relance, mais ce système ne fait qu'exacerber cela.
Je ne peux que plus soyez. C'est ce qui en fait la problématique, c'est le nombre de joueurs qui ont des défaillances techniques en fait. T'as l'impression qu'ils sont tous devenus des joueurs avec des pieds carrés. Et quand tu regardes le terrain, tu vois un espèce de trou au milieu où, grosso merdo, les solutions de passe, à part faire que du retrait, bah, tu as vraiment du mal à les trouver. Et tu n'avais pas de milieu qui était capable de tu sais, comme un Warren peut le faire, etc. Tu n'as pas vraiment le milieu qui est capable de le faire. Nix, est-ce que tu veux réagir une dernière fois sur le 4-2-4
Ouais, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où c'est la faute du système, parce que j'ai vu des passes où des solutions, elles étaient claires. Genre, il n'y avait pas de joueur au marquage. Ta passe, elle était à 2 mètres. Le mec, il était en face de toi. Il n'y avait personne pour t'empêcher de rater le ballon, de rater ta passe. Et le mec, il le met à côté quand même. Là, tu vois clairement que mentalement, les mecs, ils sont pas là. Il y a des passes qu'ils ont ratées, c'était pas à cause du pressing. Il y a des contrôles qu'ils ont ratés, c'est pas à cause du pressing. Il y a des mecs, ils étaient tout seuls, ils ont raté leur contrôle, alors qu'il y avait personne autour d'eux.
Ouais, mais c'est pas leur première passe, c'est pas la première passe du match.
T'as
tout un truc qui se met en place au fur et à mesure.
C'est ce que je vous dis, les gars, c'est que même les années d'avant, où tu prends la remontada, par exemple, on était en 4-3-3, tout le monde ratait tout, ils n'arrivaient même pas à sortir de la défense.
Je pense qu'on a eu peur de Newcastle dans un match de coupe. On ne parle pas d'un match retour.
Mais je ne parle pas de peur, les gars. Je vous ai dit tout à l'heure, même tu ramènes le Red Star au Parc des Princes, il met la pression que Newcastle elle a mise. Ça finit quasiment pareil. Peut-être pas parce qu'ils n'ont pas le truc devant. Et encore avec Habib Bey, ils n'arrêtent pas de marquer des buts. Mais tu paies une équipe qui met du pressing. Le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime jouer, et c'est sa force en fait. Quand on a le ballon, tout se passe bien. Une fois que tu as une équipe qui vient et qui te rentre dedans, j'ai jamais vu le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez déjà vu un match quand une équipe elle est rentrée dans le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a répondu et a repris le match et c'est lui qui a mis la pression à l'adversaire. Est-ce que vous avez déjà vu ce changement dans un grand match du Paris Saint-Germain?
Bon, Pochettino.
Chelsea, quand Ibra sort à la 30e, tu le vois un peu sous Emery, et puis effectivement Pochettino, le premier match contre le Real.
Du début jusqu'à la fin, en fait, c'est toi qui as le ballon, mais le Real, tu n'as jamais mis de pressing ce match-là.
Même si les gens disent que c'est un hold-up, tu prends la pression tout le match, mais tu arrives à être clinique sur tes sorties de balles et sur ton efficacité.
Ouais, quand on joue en transition, effectivement, ouais. Oui.
Mais au-delà de ça, c'est le déficit, et justement, c'est très intéressant que tu utilises la remontada, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu reprends les images de la remontada, on parle de ce match, reprends les images de la remontada, t'as un Marco Verratti qui a des yeux paniqués, t'as un Thiago Silva qui est en train de dire derrière, et il y a une défaillance mentale monstrueuse, alors que là, la défaillance mentale, elle n'intervient pas dès le début du match, elle intervient dans un deuxième temps. C'est petit à petit, t'as des ratés parce que t'as pas de solution, et les mecs se finissent par se mettre à tous rater. Et est-ce que tu peux vraiment dire que Ugarte a défailli mentalement? Je veux dire, jusqu'à la 60e, pendant 45 minutes, il a gagné 5 duels. Après, il n'en a gagné aucun de la 45 à la 60, mais pendant 45 minutes, il gagne 5 duels. Guimarães, tu ne le vois pas tant en 10. Et les quelques fois où il monte en 10, il se fait bouffer par Ugarte. Et Ugarte, tu n'as pas le sentiment qu'il a failli mentalement. Et pourtant, il te rate des passes comme il n'en a jamais raté. Quoi.
Et le match contre Clermont ne vient pas presser en première mi-temps, ils le font plus en seconde. Clermont ne vient pas presser, ça n'empêche pas de voir exactement le même déchet technique de notre équipe. Alors, Luis Enrique a dit que la pelouse était mauvaise, certes, mais ça fait deux matchs où tu vois des gestes techniques niveau amateur, des passes en touche directe, c'est compliqué. Hein.
Alors, on ne va pas revenir sur Enrique, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être un sujet. Est-ce que les excuses commencent à devenir un sujet avec Luis Enrique? On va quand même passer à la suite.
La tour Edith Aigu, ça fait partie du lot.
Écoute, alors pour le coup, ce serait presque une main. J'ai oublié le nom du coach qui est à Naples là, à l'heure actuelle.
Rudy Garcia.
Voilà, une Garcia Edith Aigu pour le coup. On va quand même avancer parce qu'on a pas mal de sujets. On en est déjà à la 40e minute. J'ai envie de vous demander, Est-ce que pour vous, il y a un meneur de jeu dans cette équipe? Je te laisse commencer, Vasto.
Bah non.
Et bah, du coup, est-ce que bah, c'est obligatoire d'en avoir un? Est-ce que tu peux compenser?
Bah oui, c'est obligatoire d'en avoir, c'est ce que je dis. Il faut, quand je parlais de Guardiola, Cabecerri, c'est Bernardo Silva, c'est machin. Alors après, tu peux en trouver, tu peux estimer que Lee peut être un mec qui mène un peu plus le jeu, tu peux estimer qu'Asensio en faux neuf, sans être un vrai meneur de jeu, parce qu'il ne va pas toucher 100 ballons par match, mais il a la capacité technique de jouer de haut but, d'attirer des défenseurs sur lui pour libérer des espaces, et une très bonne qualité technique dans la finition, que ce soit dans la dernière passe ou dans le geste devant le but. Donc, on n'a pas de meneur de jeu, on n'a pas de 10, ça c'est sûr. Il faut en trouver ailleurs sur le terrain. On n'a pas de meneur de jeu en 6, parce qu'on n'a que Ugarte, Danilo, c'est pas Rodri, on en est conscient. Donc, tes meneurs de jeu, il va falloir les trouver soit en faux neuf avec Asensio, soit sur le côté avec des profils comme Lee, voire Barcola, même si c'est pas du tout un meneur de jeu, mais c'est déjà un peu plus juste techniquement et un peu plus complet que Colomwani sur l'aile. Dembélé, s'il mettait son cerveau à l'endroit aussi pour être un meneur de jeu, mais le problème c'est que Dembélé, ça fait 5-6 ans que son cerveau est déconnecté, donc le Dembélé de Rennes et de Dortmund, c'était un joueur, je le voyais largement au-dessus d'Mbappé, enfin pas largement, mais je le voyais au-dessus d'Mbappé, le Dembélé de Rennes. Qu'est-ce qu'il est devenu derrière, je comprends pas, c'est dommage.
Nix, pour toi, est-ce qu'on peut faire abstraction du meneur de jeu, ou est-ce qu'il est devenu nécessaire, ou est-ce que même tu en vois un, toi, dans l'effectif?
Pendant que Bastille parlait, j'essayais de réfléchir à toutes les équipes en Europe, et c'est vrai qu'il n'y en a aucune qui n'a pas de meneur de jeu. Après, il y a meneur de jeu et meneur de jeu. Quand il fallait faire partir Neymar, et qu'on m'a dit « Ouais, mais après, on n'aura pas de meneur de jeu », moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de Neymar dans ce système, parce que ce n'est pas le type de meneur de jeu qu'il faut. Par contre, un meneur de jeu type De Bruyne, type Odegaard, là, c'est vraiment un milieu de terrain. Je ne parle pas d'un attaquant qui crée, etc. Parce qu'on voit bien que Neymar, il est obligé de redescendre pour créer. Et du coup, devant, tu avais un manque dans la surface, etc. Moi, je parle vraiment d'un milieu de terrain qui peut créer des choses. Et tu vois, même au Bayern, bah, tu en as plusieurs, puisque tu as quand même Kimmich qui est plus bas, mais qui est quand même le meneur de jeu de cette équipe. City, tu as De Bruyne. Arsenal, tu as Odegaard. Newcastle, tu as Guimaraes. Je ne vois pas aucune équipe du haut niveau qui n'a pas de meneur de jeu. Et c'est pour ça que je dis que peut-être Enrique, il a abandonné le 4-3-3 parce qu'il n'en a pas. Et en 4-3-3, sans meneur de jeu, c'est stérile, comme on a vu en début de saison. On a le ballon, on fait des passes, c'est très bien, on a la possession. Mais tu n'as pas ce mec qui peut soit marquer des buts, soit faire une passe qui va tout casser. Et Bernardo Silva, il était parfait pour ça, si on le prenait cet été. Par contre, dans l'effectif actuel, le seul, celui qui se rapproche le plus, c'est Asensio, si tu le mets 8, ou dans un 4-2-3-1, tu le mets 10. Mais on a rien, on n'a aucun joueur dans cet effectif qui peut être meneur de jeu. Quand Gingley, je ne pense même pas, parce que c'est un mec, il est techniquement supérieur, mais je ne suis pas sûr qu'il a la vision de jeu d'un meneur de jeu.
Ouais, c'est plus un détonateur.
Je te laisse répondre à la question, Nix.
Il m'a dribblé. C'est censé être Vitinha le meneur de jeu, mais Warren peut-être évoluer dans ce registre. Warren, ce n'est pas possible pour l'instant, il n'a pas trop travaillé là-dessus. Warren, ce qui est bien, c'est qu'il va porter le ballon. Ça, certains meneurs de jeu le font très bien. Lui, c'est sa qualité. Par contre, dans la dernière passe, même si on a vu qu'il a fait une passe d'Es mercredi, ce n'est pas le mec qui va te faire des graves dépasses qui vont casser les lignes. Ce n'est pas le mec qui va marquer de loin, comme Odegaard, il fait par exemple Arsenal. Moi, je pense que le meilleur choix, c'est Asensio, à voir s'il arrive à faire une saison complète sans se blesser. Et voilà, si tu veux partir en 4-3-3, moi je dis Asensio, il doit être le 8-10. Ouais. Tu n'as pas d'autre solution.
Et très rapidement, Vitinha, quand on parle de meneur de jeu, on parle de joueur qui naturellement joue plus haut que Vitinha. Il faut le préciser. Ouais. Très rapidement, Basto, il y a deux questions et après tu enchaîneras sur ce que tu veux. Verratti, c'était le meneur du milieu. On pourra en parler.
Au début, oui, pas sur les dernières années.
Pour le meilleur et pour le pire. C'était pas Verratti, mais non.
Et je te laisse répondre, Basto, ce que tu voulais, mais tu ouvriras sur ça. C'est le meilleur offensif n'existe pas à Paris, puisque le ballon, ils n'arrivent pas aux offensifs.
Ah oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça, si tu n'as pas de top créateur, comme on va dire, tu mets le maximum de joueurs qui s'en rapprochent. Donc pour moi, je mets et Asensio et Vitinha sur le terrain dans un 4-3-3, un off au 9, hein, au milieu. Mais si tu n'as pas assez de qualité, tu essaies de mettre le plus qui s'en rapproche. Que Asensio, ce n'est pas suffisant. Que Vitinha, ce n'est pas suffisant pour moi. Voilà. Simons.
Ouais.
Non, Simons, non. C'est en fait, c'est le mec qui va pouvoir te marquer des buts, il va pouvoir faire la dernière passe, c'est vrai. Si tu joues en transition, comme il joue par exemple à Leipzig. Par contre, est-ce que c'est un mec qui, par exemple, en phase de possession, va réussir à trouver la passe qui va déséquilibrer tout le bloc adverse? Je ne pense pas, ce n'est pas ses qualités. Donc moi, je ne le considère pas comme un meneur de jeu. C'est un 8-10 qui va... percuter, qui va frapper de loin, qui va pouvoir jouer vite lorsque tes attaquants dans la profondeur, chose qu'on aurait bien besoin d'ailleurs cette saison. Mais en tant que cerveau du milieu de terrain, je ne le vois pas. Ouais.
Non, mais c'est encore un énième joueur de transition pour le coup.
Exact. Et du coup, le commentaire de Eddie qui nous vient de Guadeloupe, salut Eddie, était pile par rapport au point qu'on va aborder. C'est est-ce qu'il faut s'inquiéter d'avoir une attaque aussi déconnectée? Je te laisse commencer. Je ne sais plus qui a commencé la dernière fois. Je crois que c'était Basco. Ouais, donc je te laisse commencer, Nyx.
Une attaque déconnectée, faut-il s'inquiéter? Non, parce que c'est le début. C'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Je vois quelque chose qui me marque, c'est par exemple sur les centres de Dembélé. Bah, nos attaquants sont aussi surpris que les défenseurs adverses. Où est-ce que le ballon il va arriver? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui, par exemple, connaît assez Dembélé pour savoir qu'en général, il va centrer dans cette zone-là. Et par exemple, que Dembélé connaisse assez, par exemple, Ramos pour dire que Ramos va faire cet appel-là. Donc, en fait, ils ne se connaissent pas assez et les défenseurs connaissent les attaquants autant que nos attaquants connaissent leurs propres coéquipiers. Donc moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'il faudra du temps. Surtout que... T'as quoi? T'as que Mbappé qui était là les saisons d'avant. Tout le reste, c'est des mecs qui viennent d'arriver. Tu peux pas espérer que tout s'emboîte aussi rapidement. J'ai jamais vu ça. Tu vois Chelsea avec tous les joueurs qu'ils ont achetés. Bah, c'est encore plus catastrophique. Tu peux pas mettre 4 mecs comme ça, peu importe leur niveau, et te dire bah, ça y est. Après, c'est vrai, quand t'as mis Mbappé, Neymar, Messi, il y a eu des buts, mais ils ont pris du temps quand même à comprendre leurs appels. Moi, je me rappelle au début, quand il y a eu Neymar Messi, bah, Mbappé, il se sentait pas bien jusqu'à ce qu'il fasse son pivot gang, etc. Les deux, ils jouent ensemble parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, Messi et Neymar, mais Mbappé, il n'était pas dans la sauce. Et là, en fait, il faut qu'il arrive à trouver, une alchimie entre les trois, voire les quatre, pour qu'on fasse la différence, mais ce n'est pas encore le cas.
On t'entend plus, Seb. On t'entend pas.
Avant de laisser, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le micro. Avant de laisser répondre Basto, je te laisse réagir à ce commentaire. Nyx, jouer avec un faux neuf alors que tu as pris deux neufs, je trouve ça complètement incohérent.
On n'a qu'un seul neuf, les gars. C'est Gonçalo Ramos. Ouais. On n'a pas de neuf. On a un deuxième attaquant.
Un suisse qui pouvait jouer neuf sur les côtés.
Il peut, mais de base, c'est un neuf et demi. C'est un mec qui joue dans un deuxième. C'est un deuxième attaquant. Parce que regarde le nombre de passes d'ess de Ramos et regarde le nombre de passes d'ess de Colomboigny.
On a regardé hier, Colomboigny à Nantes, c'est 4
par 8 en 2 ans. Je parle de Francfort.
C'est 4 par saison.
Il y a Francfort, Nix, Wendal, on fait déjà 3 Leipzig, il en avait fait 2 à Lens.
Et c'est quoi le joueur?
Je parle de passes d'ess, pas de but, les gars.
Oui, bah passes d'ess, Wendal, on est déjà à 3 Leipzig, il en avait fait 2 à Lens.
C'est compte, regarde en France, parce que ça te parlera plus. En Allemagne, ça compte pas.
Bah, en France, le mec, il joue à Nantes, excusez-moi, que tu regardais le Nantes de Comboiré.
Ouais, quand il joue en Allemagne, tu peux utiliser le même argument. Les stats en Allemagne, les stats offensives en Allemagne, c'est l'impression que les mecs, ils ont tous trouvé le cheat code, en fait. Ils ont tous trouvé le cheat code.
Parce que c'est offensif, ça marque plein de buts. Quand il y a 4 buts par match, forcément.
Et il y a une tonne d'espace pour trouver des lignes, etc. Ouais, etc., etc., etc. Et Basso, donc du coup, une attaque déconnectée, est-ce que pour toi, il faut s'inquiéter?
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'attaquants qui sont limités et même pas complémentaires dans leurs limites. On a Dembélé, on connaît ce problème de finition. On a Kolo qui est plus là, on le fait jouer à gauche, donc le côté préférentiel de Mbappé, mais Kolo, ce n'est pas un créateur qui va le servir et qui va pouvoir libérer Mbappé, c'est Mbappé Ah, bon, on verra.
On verra, mais c'est probable.
Mbappé qui est obligé de décrocher pour chercher le ballon plus bas, parce qu'avec Colo, c'est sûr que le ballon va pas arriver. On a le seul attaquant qui redescendait au milieu, qui est ton seul neuf de surface contre Newcastle, c'est Ramos. C'est le seul qui est obligé de descendre deux, trois fois au milieu de terrain pour faire un relais au milieu. Ben, y a rien qui va. Et tu vois qu'il y a un problème de complémentarité terrible quant à les trois Français sur le terrain, du moins. Ça ne peut pas marcher, peu importe le système, je le redis. Mbappé plus Dembélé plus Colo ensemble sur le terrain, je n'y croirais pas. Alors, on peut persister là-dessus, on verra. Maintenant, si tu trouves une attaque, une cohérence avec un Asensio, un Barcola, un Ramos, un Dembélé qui devient plus buteur, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais pour le moment, l'attaque qu'on voit ces derniers temps, c'est les trois de transition plus Ramos. On a vu un peu Barcola contre l'OM, mais pas plus que ça. Pour le moment, ces quatre-là, du moins les quatre qu'on a vu contre Newcastle, je vois aucun lien possible de progression. Enfin, si, de progression, parce qu'ils vont s'entendre et se connaître, mais de progression dans la cohérence du machin, parce qu'ils ont des limites qui ne sont pas complémentaires entre elles.
Mais il y a NDSG qui nous invite justement à la mesure. Tu te laisses vite faire répondre à Vasto et ensuite de ça, on passera à Nix. Malgré le fait qu'on a une attaque qui cherche, on est déjà à 16 ou 17 buts. Est-ce qu'on ne s'inquiète pas trop vite?
Oui, donc 4 contre un Marseille en crise, 4 contre un Lyon en crise, 3 contre un Lens qui était en crise. Enfin, nos buts, c'est aussi dans nos 4 victoires qui étaient, comme j'ai dit en début de podcast, qui étaient les 4 équipes malades.
Il faut se souvenir du nombre de buts qu'on avait marqués après 7 matchs la saison dernière. Nix, je me souviens. Ah bah oui, on avait commencé par toi, Nix. Excusez-moi, je commence à avoir du mal à suivre. Et du coup, on va commencer avec Basto. Est-ce que pour toi, Mbappé, ses performances s'expliquent par le fait qu'il soit desservi? Ou est-ce que c'est juste lui qui part un peu en sucette en ce moment?
Les deux. Quand Mbappé n'est pas dans une position idéale, il part en sucette derrière. Donc c'est lié. Et là, tu le mets dans une situation qui n'est pas tenable, c'est-à-dire dans le demi-espace gauche de cette attaque à deux, où tu n'as pas de milieu relayeur pour l'alimenter en ballon puisque tu as sorti Vitinha. Tu n'as pas de latéral parce que Lucas Hernandez, on lui demande de rester très bas. Et donc, tu n'as personne qui peut lui donner des ballons. À la limite, si tu lui mets Barcola à gauche, peut-être qu'il peut lui en donner quelques-uns, mais ce n'est pas non plus génial. Donc, tu as Mbappé qui est très limité dans une zone où les balles ne lui arrivent pas comme il veut, c'est-à-dire en profondeur dans l'espace. Il a beaucoup moins d'espace puisqu'il est coincé entre Colo à gauche et Ramos à sa droite. Donc, il a un espace beaucoup plus petit. Le ballon n'arrive pas. Il est obligé de décrocher et de jouer le meneur, ce qu'il ne sait pas faire. Il s'énerve, donc il le refait encore plus. Donc, son attitude en découle, etc., etc., etc. Mbappé, j'ai l'impression qu'il n'y a que Pochettino qui a su l'utiliser à son maximum de possibilités.
Alors, très rapidement, je ne vois pas exactement combien vous êtes en live, mais si Eve nous dit objectif 100, c'est qu'en live, vous êtes plus que 100. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble. En vrai, si vous êtes toujours là, c'est vous qui faites le
contenu. 224 en live.
Bah voilà, vous kiffez le contenu, vous faites la petite pause, le petit pivotage de téléphone, pivot gang sur votre téléphone et tout le bordel, et vous appuyez le petit pouce, parce que ça nous aide pour le référencement, tout simplement, on compte sur vous. Et aussi, on a un projet, Nix le maîtrise mieux que moi, donc je vais laisser Nix présenter le projet pour le studio live. Nix, let's go.
Ouais les gars, juste pour vous dire que ce qu'on est en train de faire là, on aimerait bien le faire ensemble, dans un studio tous ensemble. Donc on a mis un lien en description si vous voulez nous aider, participer vite fait, même si 1 euro, si on a tous nos abonnés qui mettent 1 euro, on est déjà sorti de l'auberge. D'ailleurs, merci à Pierre qui vient de faire un don, merci beaucoup. Et puis likez, et puis si tu veux que j'enchaîne sur Mbappé.
Je conclue juste en disant, en vrai ça fait une heure qu'on est ensemble, vous kiffez le contenu, donc likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pour tous ceux qui sont en train de regarder en replay, pareil, ça fait une heure qu'on est ensemble. En vrai, voilà, faites tourner, lâchez votre petit like, on compte sur vous. Et maintenant, c'est lancé sur Mbappé.
J'ai la réaction de Enrique en conf, effectivement.
On en parlera après. Ouais. On laisse Nix réagir et après je te lance sur Enrique.
Ok. Du coup, Mbappé, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, ma question, c'est qu'est-ce que Kylian Mbappé il veut? Parce que tu l'as mis lié pendant longtemps. Bah, pour lui, il était trop loin du but. Il ne veut pas défendre. Tu le mets numéro 9. Il te dit ouais, moi, je ne suis pas pivot. Là, tu lui mets un Ramos ou un Kolo Muani avec lui. Bah, il n'est pas content. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, Kylian Mbappé. Je ne sais pas. 4-3-3, on te met lié, tu ne veux pas. 4-2-4, on te met attaquant, tu ne veux pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse un 4-2-3-1, on te met 10, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il attend en fait? Parce que là, je vois qu'il n'est pas content de devoir faire le créateur parce qu'il n'a pas de ballon. Chose que je comprends, c'est pas ses qualités. Mais en fait, tu as un mec, tu as l'impression que tu ne sais pas ce qu'il veut et il ne cherche que des excuses tout le temps. Peu importe le poste où tu lui mets, il dit ah, je ne suis pas content. Et au final, il y a eu ce qui s'est passé cet été. Je ne sais pas si ça joue un rôle là-dedans. Il n'a pas eu la prépa optimale. Peut-être qu'il y a encore des conflits avec le club parce que bon, peut-être qu'il n'a pas apprécié que le club l'ait mis au placard. Moi, déjà, j'aimerais savoir ce qu'il veut, ce mec, où est-ce qu'il veut jouer. Et aussi, je pense que si d'ici novembre, décembre, il n'est pas bon. D'ailleurs, je vais être très attentif à ce qu'il va faire avec l'équipe de France la semaine prochaine pour voir si c'est un problème du Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est lui. Clairement, parce que si c'est en équipe de France, ça va être pareil. Et après ça, l'équipe de France, on va voir si Mbappé, c'est juste un décalage, comme on avait fait un sujet sur sa phase de pic, parce que vu qu'il a commencé plus tard, peut-être qu'il va être en forme plus tard que les autres. Ou est-ce que, comme j'ai dit, Mbappé, il est déjà parti mentalement dans sa tête. Là, je vois ce que Riolo, il a dit que maintenant, il va de plus en plus en soirée, etc. etc. Ça se trouve, le joueur, il est déjà parti. Il attend juste août. Parce qu'en fait, on est en train de parler, mais ça fait 2 ans que Kylian Mbappé, il n'est pas bon. Il a certes les buts qui vont bien, il a des bonnes stats, etc. Mais toute l'année dernière, il n'est pas bon. Les années d'avant, je suis d'accord que par exemple, le match contre le Real, on a un Mbappé stratosphérique. Mais depuis cette saison-là, en fait, le mec, il n'est pas bon. Il marque des buts, là, début de saison, il a 8 buts. Depuis le début de saison, il est nul. Faut dire les choses. Dans le jeu, il est nul. Donc, moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu Mbappé à son plein niveau. Et même la Coupe du Monde, parce que quand il met son triplé là, tout le match, avant ça, il est nul. Donc, moi, j'espère retrouver le vrai Mbappé, celui qu'on a vu face au Real. Et si on ne le retrouve pas, bah, va falloir le mettre sur le banc. Parce que si monsieur a déjà la tête au Real, Bah, en fait, tu me dis ça, mais Mbappé n'a aucun moyen de pression sur nous. Parce que si Nasser croit naïvement dans sa tête qu'il va encore prolonger, non, en fait, là, le mec, son contrat, il est fini. Donc, en fait, il ne peut pas dire « Ouais, mais si vous me mettez sur le banc, je ne vais pas… »
Il a un moyen de pression.
C'est quoi son moyen de pression?
Il a ramené tous ses potes cet été, donc si le vestiaire le soutient…
Non, parce que en fait, je pense même pas qu'il a demandé ses potes cet été. Je pense qu'il les a demandés l'année dernière. Nasser ne l'a pas fait. Et là, Nasser, il essaie de les ramener un an après pour essayer de le convaincre de rester et de prolonger. Chose que je pense que ça ne va pas marcher. Moi, comme j'ai dit, je suis persuadé que Florentino Pérez a dit à Mbappé, après ce que tu as fait, la seule manière que tu viens au Real, c'est libre. Et Pérez ne va pas mettre 1 € sur Kylian Mbappé. Donc moi, je vous ai dit, je pense dans sa tête, il est déjà parti. Donc vu que tu as ça, le mec n'a aucun moyen de pression sur toi. S'il n'est pas bon, tu le mets sur le banc. S'il n'est pas content, c'est pareil. Parce que de toute façon, il ne va pas te dire, je ne vais pas prolonger. De toute façon, tu ne vas pas prolonger.
Il y a d'autres aspects. Si tu le mets sur le banc, tu perds un match.
Il est là, tu perds 4-1. Il est là, tu perds 4-1. Monsieur ne veut pas courir.
Mais la pression que tu as, si jamais tu perds le match, elle est monstrueuse parce que tu es observé par l'Europe entière. C'est-à-dire que tout à coup, tu as des questions qui apparaîtront, etc. Ce n'est pas des joueurs qui sont si simples que ça de mettre sur le banc, même s'ils n'ont pas de pression contre toi, en vrai. Il y avait une remarque, j'hésite à la up, mais c'est quelqu'un qui nous disait on est payé par YouTube, je vois pas pourquoi on devrait cotiser. Bah, tu dois pas cotiser, mec, c'est juste tu cotises si tu en as envie, si tu peux. Si tu nous vois bien, il n'y a pas de dû, de je sais pas quoi. C'est vrai que YouTube rapporte un peu d'argent, mais contrairement à ce que vous pensez, c'est loin d'être des 1000 et des 100. Un projet, notamment un projet d'un studio, ça coûte un peu plus d'argent et on en a besoin. Mais après, si on peut pas le faire, on pourra pas le faire. Mais si avec votre générosité, on peut le faire, c'est super cool. Mais en aucun cas, tu dois. Si tu veux pas, tu fais pas.
Vous voulez,
faites-les, quoi. Il n'y a pas de souci.
Déclaration.
Ah oui, vas-y, la déclaration. Moi, je dois vous laisser 2 petites secondes. Si jamais tu peux, tu prends le relais, j'arrive tout de suite.
Vas-y.
Ouais. Tu l'as ou tu veux que je la lise?
Non, vas-y, c'est toi qui l'as. Moi, je ne l'ai pas. Bon.
Le résultat contre Newcastle ne représente pas du tout la différence entre les deux équipes. C'est un résultat très atypique. Dans ma carrière, j'ai déjà perdu avec un grand écart. Lorsque c'est arrivé, il y avait une grande différence de niveau. Ce n'est pas du tout le cas ici. Le match contre Newcastle a été très étrange. J'ai beaucoup aimé mon équipe lorsque le match est terminé. Et en le revoyant, je pense pareil. Voilà, merci. Merci, Louis.
Après, faut dissocier les choses. Faut ce que Luis Enrique y pense et ce que Luis Enrique dit à la presse. Parce que je pense que Luis Enrique, il prend les journalistes pour des gueulemons. Et il leur dit tout et n'importe quoi. Juste parce qu'en fait, il les respecte pas. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je les respecte pas, les journalistes. C'est des mecs, tu vas en conférence de presse, ils te posent des questions sur Kylian Mbappé, est-ce qu'il va prolonger son contrat. On s'en fout, frère. C'est du football.
C'est des vraies questions et ils s'en foutent. C'était déjà le cas en Espagne. Enfin, ils s'en foutent, Enrique, de toute façon.
Non, mais il n'aime pas les journalistes. Même, il a fait sa chaîne Twitch pour pas parler avec eux. En fait, le mec, il n'aime pas les journalistes. Donc, il va leur dire... Je crois que c'est Loïc Tanzi qui se plaignait que Enrique les prend pour des cons, mais c'est ça, c'est clairement ça. En fait, pour lui, les journalistes, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il dit...
Le problème, c'est que les journalistes, c'est un relais entre l'équipe et nous, les supporters. Et moi, quand il prend les journalistes pour des cons, il prend les supporters pour des cons. Moi, il me prend pour un con avec ses déclarations, Enrique, clairement.
Mais ce n'est pas le relais des supporters, parce que tu regardes les conférences de presse. Moi, par exemple, supporter, ce n'est pas les questions que je poserais à Luis Enrique. Moi, je lui poserais d'autres questions que ce qu'il pose. En fait, les mecs, ils sont là, ils posent un article, ils posent une question pour pouvoir la ressortir en extrait sur leur compte Twitter, genre en mode Luis Enrique, il a dit ça.
Pourquoi quand c'est Bielsa, d'un coup, ça peut parler football et les journalistes, tout le monde et les supporters sont contents? Pourquoi quand c'est Régis Lebris, ça parle football? Pourquoi quand c'est Fonseca, ça parle football? C'est-à-dire que les coachs qui ont envie de parler de football, ça parle football.
Il coache pas le Paris Saint-Germain.
Ouais, bah Bielsa, il coachait
là. Je n'aime pas cet argument-là, Nix, il est...
Elle est là, la vérité. On a eu ce problème-là avec nos quatre derniers coachs. Facile, voire même avec Emery.
Carlo, par
t'as Tourelle qui pète un plomb et qui te dit « Je suis fatigué !» Et « Je suis
fatigué !» Il pète un plomb dans tous les clubs.
Et oui, puis t'as Emery qui essaye et il se prend un peu de racisme dans la tête.
Emery, il essaye, après il abandonne. Pochettino...
Pochettino, il n'a jamais parlé.
Exactement, Pochettino, il sait direct où est-ce qu'il était.
Galtier,
il a essayé, il s'est ramassé.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, qu'une confusion s'installe sur ses intentions? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à partir du moment où il envoie un peu chier à droite, à gauche, etc., etc., bah, qu'il y a une confusion qui s'installe sur ses intentions. Surtout que quand tu le vois après à faire un peu l'idée fixe avec son 4-2-4, est-ce que cette confusion ne peut pas le nuire? Est-ce que d'une manière générale, la communication d'Enrique a été problématique, en fait, ailleurs?
Et qui va?
Celui qui veut.
Ouais, je peux juste... De quoi, Rudy? S'il y avait une question, tu as posé une question ou...
Ouais. Est-ce que la communication de Enrique n'était pas déjà problématique ailleurs? Et est-ce que, en fait, avec sa manière de faire, il n'ajoute pas juste de la confusion, quoi?
Ça, je suis incapable d'en répondre, je ne suis pas dans le vestiaire, mais en tout cas, pour les supporters, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de Barça, de manière avec les champions, qui ont eu du mal avec lui et qui l'ont vite lâché, je pense que ce n'est pas bon. Au bout d'un moment, c'est-à-dire quand on arrive dans un moment dur, au bout de quelques mois, quelques années, peut-être s'il reste plusieurs années, sa communication va finir par brider et les supporters et les dirigeants. Mais à court terme, je ne pense pas que ce soit un problème du tout.
Et toi, vite fait, Nix?
Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la relation qu'il a avec ses joueurs, si ça se passe bien avec ses joueurs dans son vestiaire. Vous vous rappelez l'idée folle que j'avais eue quand on recherchait un coach? Moi, je vous avais dit, il faut recruter deux coachs, deux directeurs sportifs. T'as un coach qui s'occupe du football et un coach qui s'occupe de la presse. Un directeur sportif qui s'occupe du football.
Faire comme Rudy, un entraîneur des avant, un entraîneur des arrières, un entraîneur de machin.
Juste pour que le coach ne s'occupe pas de ça, en fait. Parce que ça sert à rien. Moi, je trouve que les conférences de presse, tout ça, ça sert à rien. À la limite que le club il prenne les questions des fans, enfin des supporters, et qu'il les donne à Luis Enrique, ils choisissent des questions et ils répondent sur la chaîne du club, et que ça répond aux questions des supporters. Moi, ça me va très bien, mais des mecs qui essaient constamment de foutre le bordel dans le vestiaire, etc., en posant des questions qui font chier tout le monde, moi, ça me saoule, et je comprends que ça saoule les coachs aussi.
Très rapidement, avant de te passer la parole, Basto, oui, c'est vrai, Dave, on peut faire l'analyse ici, mais nous, on n'a pas accès à Luis Enrique. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Vas-y, Baston.
Ouais, juste pour conclure, par rapport à Nice qui dit qu'il n'est pas, il ne dit pas aux journalistes ce qu'il dit dans la vraie vie, Enrique. Donc, je répète la dernière phrase qu'il a dit là aux journalistes. J'ai bien aimé mon équipe lorsque le match est terminé. En le revoyant, je pense pareil. Alors, la vérité, maintenant, ce qu'il pense vraiment, c'est j'ai beaucoup aimé ma compo géniale, même, et lorsque le match est terminé, et en la revoyant, je pense pareil. Vive mon 4-2-4, je suis un génie.
Il y a de ça, hein. Il y a de ça, il y a de ça.
Non, je pense
Il y a de
pas.
ça. Bah, il y a un petit peu, quoi. Bon, on va passer sur l'avant-match. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous passez tous un bon moment. Et
D'ailleurs, il n'y a que 82 likes, hein, les gars.
il y a quoi? J'ai pas
J'ai dit,
entendu une
d'ailleurs, il n'y a
bêtise.
que 82 j'aime. Il faut que ça
Vous êtes
monte à
pas
100.
sérieux, les gens, là? Moi, j'allais tenter un coup de pression, mais là, je me sens pas de faire le coup de pression. C'est juste tourner votre téléphone, appuyer
En
sur
fait,
le.
je vais faire un truc simple les prochaines fois. Je vais mettre une photo du but de Sergio Roberto d'un remontada à 7-1 sur l'écran. Et tant qu'il n'y a pas ce là, que je ne le retire pas. Voilà. C'est ce qui vous attend la prochaine fois.
Et là, tu vas voir les mecs qui participent au débat qui vont se casser aussi. Et tu te retrouveras tout seul à attendre les likes. Ça peut être compliqué, ça peut être à double tranchant. Bon, on va passer sur l'avant-match Rennes-PSG. Qu'est-ce que vous pensez du Rennes de ce début de saison pour commencer? Commence Basto, tiens. Je ne sais plus à qui j'en étais, ce sera Nyx à la prochaine.
C'est un Rennes Genesio, j'ai envie de te dire. C'est toujours très compliqué à définir qu'est-ce qu'une équipe de Genesio. C'est une équipe qui a invaincu en Ligue 1, mais qui a 5 matchs nuls, je crois. Ils faisaient 2 victoires, 5 matchs nuls. Des matchs nuls pas bons, hein, notamment celui contre Montpellier que j'avais vu, contre Lens que j'avais vu, où ce n'est pas du grand Rennes. Maintenant, ils ont une certaine solidité avec l'arrivée de Matic qui a complètement stabilisé leur milieu. Et ça leur permet d'avoir les Bourigeaud, les Santa Maria devant, dont on connaît déjà la qualité. Devant, ils ont du mal à se trouver. Ça tourne énormément parce qu'il y a un problème d'efficacité offensive. Donc, ils font jouer le jeune Salah, ils font jouer Yildirim en pointe, ce qu'ils avaient recruté pour être milieu. Il y a Guiri, il y a Kalimuendo, même si là, je crois qu'il revient de blessure. Enfin, il y a 4-5 attaquants, mais aucun n'arrive à s'imposer. Il y a Ludovic Blas, qui est peut-être le plus fiable pour le moment côté rennais, sur l'aile gauche.
Il n'y
En
a pas Terrier.
défense, de quoi?
Il n'y a pas Terrier qui revient.
Terrier, il est juste revenu le dernier match, mais il ne sera jamais titulaire avant 1 ou 2 mois. Il revient de 8 mois de blessure. En défense, c'est la même que l'année dernière, c'est-à-dire avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Ils peuvent faire des très bons matchs, puis derrière avoir des absences, que ce soit Théâtre, Assignon, Truffert, tout ça, c'est la même chose. Un Mandanda qui continue un peu à régresser, hein, clairement pas plus assez décisif. Donc voilà. Le match parfait pour résumer Rennes, ils commencent leur saison en gagnant contre Metz 4-0, mais c'est Metz, donc voilà, mais bon, c'est en mode, même 5-0, je crois. Donc on se dit, ah, ça y est, Rennes, ils sont repartis sur des bonnes bases, ils vont être très dangereux, gros mercato. Le match d'après, c'est un nul contre Lens, mais on ne savait pas encore que Lens était malade. Et le match d'après, c'est le match contre Le Havre où ils mènent à 11 contre 10 et ils arrivent à perdre 2-1 contre Rennes. Ouais, tu as l'impression que cette équipe, c'est les montagnes russes permanentes, mais ça, c'est Pep Genesio.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le début de saison de Rennes,
Alors moi côté Rennes, je regarde pourtant la Ligue 1 que Basto, donc j'ai pas beaucoup d'infos. Par contre, depuis le début de saison, avant chaque match, j'étais confiant. À chaque fois, je disais Paris allait gagner, sauf ce match parce que Pep Genesio est le coach qui me fait le plus peur au monde.
C'est celui qui nous a le plus là-dessus.
Voilà, c'est
Il y a
exactement ça.
le
C'est
commentaire de
exactement
Woman.
ça. C'est le mec qui nous a le plus battu. À chaque fois, il nous gifle. Et en fait, moi, je crois qu'il a notre numéro. En fait, c'est pas. Tant, à chaque fois qu'on va jouer contre lui, il va nous faire mal. Donc, moi, c'est le premier match de la saison. Je suis pas confiant, surtout que c'est là-bas. Ils ont un bon milieu de terrain. Moi, je sens que ça sent un peu le roussi pour demain. Et j'espère que, vu qu'il y a la trêve derrière, que ça partira pas en. Mode le PSG est en crise, etc., etc.
Alors, avant de te poser une question plus avant, Nyx, ouais, juste Basto, tu avais fait
Oui,
une petite
non, mais j'ai précisé avant,
annonce,
il était invaincu.
c'était revenu en match nul,
Il voulait
c'était
mettre le
juste.
0, il s'est servi de la 2-2.
Et du coup, Nyx, t'attends quoi comme compo, toi, demain?
Ah, bonne question. Bonne question. Franchement, vu le nombre de milieux de terrain de qualité qu'ils ont, si tu veux gagner la bataille du milieu de terrain, il faudra mettre le 4-3-3. Et encore, je pense pas que tu vas la gagner, même avec ton 4-3-3. Le seul problème, c'est que si tu joues comme ça, tu risques de repartir avec un match nul. Mais est-ce que c'est pas le mieux qu'on peut espérer vu nos rencontres passées avec Genesio? Je pense que le match nul il est pas si grave que ça, puisqu'on a pris quasiment que des défaites. Voilà.
Merci beaucoup Gilbert, c'est super cool à toi. J'espère qu'il n'est pas trop tard, je ne sais pas trop quelle heure il est, mais en tout cas c'est
Trop
super cool
tôt.
de suivre jusque là-bas. Ça fait sympa d'avoir ce petit côté international. Alors, il y a Basso, je vais te demander vite fait de réagir à ce petit commentaire. Et ensuite de ça, de nous dire quel compo toi tu attends contre Rennes. Oui, quel compo tu attends et quel compo tu penses qu'il y aura.
Enzo, oui, j'adore ce joueur. Il est aussi bon dans la récup, dans l'harcèlement que la création. Maintenant, il a un peu de mal à Rennes, hein, donc peut-être qu'à Paris, il aurait aussi un temps d'adaptation compliqué. Il a un peu de mal à Rennes, mais on sait que Genesio, justement, c'est souvent ses meilleurs joueurs qui brillent. Hein. Nyx parlait de Doku, hein, Doku en 2 ans sous Genesio, ça n'a pas été ça du tout à Rennes. Pourtant, c'était un joyau brut et Guardiola, il lui a suffi de 1 mois pour le faire briller. Quel compo je vois demain, c'est ça? Ou le prono?
Quel compo tu vois demain? Pronom, on fera après.
Quel
Quel
compo je
compo tu
veux demain?
vois demain? Quel compo toi tu aimerais demain? Et quel compo tu vois demain?
Quel compo je vois demain? J'ai l'impression qu'Enrique va insister avec un 4-2-4. Je pense qu'on aura peut-être juste un changement dans la ligne d'attaque. Peut-être Barcola à la place de Colomwani, qui a enchaîné les 5 derniers matchs. J'ai pas l'impression qu'il va revenir à 4-3-3. Maintenant, j'espère qu'il reviendra à 4-3-3, c'est-à-dire bon, bah, la défense type qu'on connaît, le milieu Ugarte, Emery, Vitinha, et une attaque Barcola, Ramos, Dembélé ou Colo, mais Dembélé, parce qu'il joue à Rennes, il a été formé à Rennes, donc ça compte peut-être.
Et qu'est-ce que tu aimerais du coup comme compo, toi?
C'est ce que je viens de dire.
Ah, pardon, je croyais que tu étais parlé du 4-2-4.
Non, après j'ai enchaîné, mais tu ne me
Ah,
suivais plus.
excuse-moi, je n'avais pas entendu. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Bah, du coup, non, parce que j'avais préparé avec le message de Wen, donc inévitablement, tu mettais Vitinha, donc c'était pour ça, etc. J'ai eu un petit fail Nyx. Est-ce que tu veux réagir sur les compos de Basto ou tu lâches direct ton prono?
Non, bah c'était au traditionnel 4-3-3 comme d'habitude. Prono. Bah, vous savez, depuis la saison, j'ai ce jeu où je force avec un 3-1, 3-1 Paris Saint-Germain jusqu'à ce que ça passe. Malheureusement, je suis pas sûr que ça va passer ce week-end. Donc, je pense qu'on va faire un match nul, peut-être 0-0 ou un partout.
Oula, c'est Nyx commence à être défaitiste, attention, qu'est-ce que va nous dire
Non,
Basto?
Rennes,
Il
enfin pas Rennes, Genesio, franchement, Genesio, en fait, j'aime pas jouer contre Genesio, c'est tout.
Basto?
S'il met pas sa connerie d'équipe qu'il a aligné contre Newcastle un partout, s'il met un 4-2-4, on perd 3-1.
Je suis pas loin d'être d'accord, mais je vais jouer la carte de l'optimisme 2-1 Rennes. Mais la dernière fois que j'ai joué la carte de l'optimisme, j'ai vraiment dit des bêtises hein, quand j'ai parlé de Newcastle. Mais on va quand même la jouer 2-1 Rennes, un des attaquants quand même est capable de se créer des situations à chaque fois, nous met en danger. On a un Kylian Mbappé qui maintenant va vraiment ronger son frein, on espère. Et donc j'ai parié sur un 2-1, mais s'il continue avec le 4-2-4, avec le milieu de Rennes, on va se faire encore dévorer, ça va être insupportable. Donc s'il te plaît, Louis, arrête avec ton 4-2-4. Messieurs, est-ce que vous voyez un truc à ajouter?
Non, il va falloir que j'aille ramener ma voiture au garage, j'imagine. Donc, vous avez intérêt à liker.
Ah bah ouais, clairement. Bah on compte sur vous, un
En
gars,
même temps, tu conduis avec des lunettes teintées.
Non, j'avais pas mes lunettes en fait. Je conduisais pour venir ici à l'heure. Et du coup, mon GPS, à un moment, il m'a dit tourne à gauche. Et du coup, c'était un peu trop tard pour tourner à gauche, mais j'ai forcé. Et du coup, ça s'est très mal passé.
T'as des fois des pas de lunettes, Nix? T'es pas né avec les lunettes noires sur les yeux?
Si, mais des fois, je les retire.
Ok,
Mais je
d'accord.
suis né comme ça. Ouais.
D'accord. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'était bien cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas le petit like si vous ne l'avez pas fait. C'est la fin de la vidéo. Quand elle se termine, paf, on met le petit pouce. Si vous, le petit projet, ça vous kiffe l'idée de nous voir en live, n'hésitez pas à regarder. Il n'y a pas d'obligation, mais ce sera avec plaisir. Et merci beaucoup, Basto. Merci beaucoup, Nix. Ciao tout le monde. Et ici, c'est
Ciao les
Paname.
gars. Salut.